tant de rêves écroulés.
Dans sa royale ascension, Philippe le Long n'avait pas seulement enjambé deux cadavres. Il laissait encore sous ses pas deux autres destins brisés, deux femmes écrasées, l'une reine et l'autre obscure. Le lendemain des obsèques du faux Jean Ier à Saint-Denis, Madame Clémence de Hongrie, dont chacun s'attendait à ce qu'elle rendît l'âme, était remontée faiblement à la conscience et à la vie. Quelques remèdes enfin s'étaient montrés efficaces. La fièvre et l'infection se retiraient de ce corps pour laisser la place à d'autres peines. Les premières paroles que prononça la reine furent pour demander son fils, qu'elle avait à peine eu le temps d'entrevoir. Son souvenir ne lui représentait qu'un petit corps nu qu'on frictionnait à l'eau de rose et qu'on déposait dans un berceau. Lorsqu'on lui fit savoir, avec mille ménagements, qu'on ne pouvait pas le lui montrer aussitôt, elle murmura
« Il est mort, n'est-ce pas ? Je le savais. Je l'ai senti dans ma fièvre. Cela aussi devait arriver. »
Elle n'eut pas la réaction foudroyante qu'on redoutait. Elle resta prostrée, mais sans larmes, avec sur le visage cette expression d'ironie tragique qu'ont certaines gens à la fin d'un incendie devant les cendres fumantes de leur demeure. Ses lèvres s'écartèrent comme pour rire, et pendant quelques instants on la crut démente. Le malheur avait mis de l'excès à s'acharner sur elle. Il y avait des places mortes dans cette âme, et le sort pouvait y frapper à coups redoublés sans plus en tirer de souffrance. Bouville, devant elle, se voyait condamné à une mensongère mission de consolateur impuissant. Chaque mot d'amitié que lui adressait la reine le torturait de remords.
« Son enfant vit, et je ne dois pas le lui dire, quand je pense que je pourrais lui donner si grande joie. »
20 fois la pitié et même la simple honnêteté faillirent l'emporter, mais Madame de Bouville, le sachant d'âme faible, ne le laissait jamais seul auprès de la reine. Au moins put-il se soulager à moitié en accusant Mao, la réelle coupable. La reine haussa les épaules. Que lui importait la main dont les forces du mal s'étaient servies pour l'atteindre ?
« J'ai été pieuse, j'ai été bonne. Du moins je crois l'avoir été, disait-elle. Je me suis efforcée de suivre les ordonnances de la religion et d'amender ceux qui m'étaient chers. Je n'ai jamais souhaité peine à quiconque. Et Dieu s'est employé à me meurtrir plus qu'aucune de ses créatures. » Or, je vois des méchants triompher en tout. »
Elle ne se révoltait pas, ni ne blasphémait non plus. Elle constatait simplement une sorte de monumentale erreur. Son père et sa mère avaient été enlevés par la peste lorsqu'elle avait à peine 2 ans. Tandis que toutes les princesses de sa famille, ou presque, recevaient établissement dès avant leur nubilité, elle avait attendu un parti jusqu'à l'âge de 22 ans. Celui qui s'était offert inespéré paraissait le plus haut du monde. À ce mariage avec la France, elle était arrivée éblouie, éperdue d'un amour irréel et pétrie de toutes les intentions du bien. Avant même d'aborder à son nouveau pays, elle avait manqué périr en mer. Au bout de quelques semaines, elle découvrait qu'elle avait épousé un assassin et succédé à une reine étranglée. Après 10 mois, elle restait veuve et enceinte. Aussitôt éloignée du pouvoir, on l'avait séquestrée sous prétexte de la défendre. Elle venait pendant 8 jours de se débattre aux portes du trépas pour apprendre, à peine sortie de cet enfer, que son enfant était mort, empoisonné sans doute comme son mari l'avait été.